Une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour et bienvenue dans le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, une émission placée sous le signe d'une liaison non pas dangereuse, quoique, mais avant tout fructueuse, celle qu'entretiennent la littérature et l'art. On ne le dit jamais assez, les plus grands critiques d'art furent souvent des écrivains. Souvenons-nous de Gautier, directeur de la revue L'Artiste et chroniqueur pour le Moniteur Universel, de Baudelaire avec le peintre de la vie moderne, sans oublier Diderot, Proust, Malraux ou Bonnefoy sur les peintures noires de Goya par exemple. Et puis, la littérature est aussi l'endroit où l'on trouve le plus de descriptions d'œuvres d'art, certaines peintures ou sculptures jouant même parfois un rôle décisif dans l'intrigue. Ce n'est pas Baudelaire et Théophile Gautier que nous recevons aujourd'hui, car nous n'avons pas encore le pouvoir de faire revenir les morts, mais bien les très vivants Adrien Goetz et Bruno Nassim Aboudrar, deux écrivains qui sont aussi historiens de l'art ou professeurs d'esthétique. Bonjour Bruno Nassim Aboudrar.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'esthétique à l'université Sorbonne Nouvelle où vous dirigez le laboratoire international de recherche en art. Vous êtes l'auteur d'un roman, intitulé Ici-bas, d'un essai qui avait fait beaucoup de bruit, Comment le voile est devenu musulman. Et là, vous publiez chez Flammarion, alors un roman, un récit, vous nous le direz. Le titre, c'est Qui veut la peau de Vénus? Et c'est un livre qui s'intéresse au vandalisme d'un chef-d'œuvre. Une femme nue, allongée de dos, qui offre au regard du spectateur ses courbes voluptueuses, regardant elle-même le spectateur dans le miroir que lui tend un ange, un cupidon. Ce tableau, c'est la Vénus au miroir de Velázquez, tableau qui, le 9 mars 1914, au cœur de la National Gallery, est vandalisé par une jeune femme, Mary Richardson, célèbre suffragette. Elle avait 25 ans, elle luttait pour l'égalité, le droit de vote des femmes en Angleterre. Elle s'attaque à la peinture avec un petit hachoir. Eh bien, pourquoi s'en est-elle prise à ce tableau, le seul nu connu de Velázquez, le seul nu de la peinture espagnole du XVIIe siècle? Eh bien, c'est ce que vous tentez d'élucider dans ce livre passionnant, avec à la fois les connaissances d'un savant, mais aussi beaucoup de plaisir dans le récit. Vous interrogez le tableau, ses pigments, les vernis, les hommes qui avaient la charge de ce tableau, mais aussi la suffragette et ses compagnes de lutte. En nous faisant entrer dans le destin et l'intimité de ce tableau unique, Bruno Nassim Aboudrar, est-ce qu'on peut dire que vous cherchez à nous présenter cette Vénus au miroir, ou cette Vénus rock by, hein, comme l'appellent les Anglais, comme une victime politique?
Comme une victime politique peut-être, mais alors si elle est victime politique, elle est victime politique depuis beaucoup plus longtemps, en 1914, que dans le seul événement de sa tentative de destruction par une suffragette. Ce que je raconte dans le bouquin, c'est aussi comment il était scandaleux de peindre un nu dans l'Espagne du XVIIe siècle, c'est pour ça que c'est le seul, et seul pouvait se le permettre, probablement le plus grand des peintres d'Espagne, également dans la hiérarchie de la cour, qui était Diego Velázquez, et pour une commandite qui ne pouvait être qu'une commandite ultra élevée, c'est-à-dire un grand d'Espagne ou le roi lui-même. Et puis, petit à petit, le tableau déchoit lentement, passe dans des collections de moins en moins nobles, de moins en moins hautes, jusqu'à atterrir sur ces cimaises publiques de la National Gallery. Et en ce sens, il y a aussi une forme de dévalorisation qui est politique. C'est un nu féminin, c'est une peinture qui, au fond, en Espagne, aura été puissamment politique.
Et en Angleterre, donc, où le tableau va devenir une icône, hein, même pendant la guerre, hein, vous racontez ça, le tableau qu'on sort, le tableau du mois, hein, pendant le Blitz.
Alors, pendant le Blitz, oui, le directeur de l'époque de la National Gallery, Kenneth Clark, avait eu l'idée formidable de faire venir une fois par mois un chef-d'œuvre des réserves du Pays de Galles où les tableaux étaient conservés pour, en cas de bombardement. Et les Anglais se consolaient littéralement en regardant ces tableaux. Et l'on sait que quand le mois où c'est la Vénus au miroir qui a été présentée, mais là on est dans les années 40, en 42 ou 3, il y a eu un succès tout à fait particulier. Mais avant ça, l'achat du tableau avait fait l'objet, ce qui était relativement rare à l'époque, d'une souscription nationale auquel énormément de gens avaient participé. On raconte que la plus petite souscription venait d'un étudiant, d'un gars de 17 ou 18 ans qui avait donné quelques centimes pour pouvoir contribuer à l'achat de ce tableau par la Nation.
Ça vous plaît cette idée, Adrien Goetz?
Ah oui, beaucoup. Voilà. Moi, j'aime
le
bien
petit
quand les
étudiants qui
oui, voilà. Et que les tableaux deviennent des romans, ça me plaît beaucoup. Oui.
Alors, Adrien Goetz, vous êtes agrégé d'histoire, docteur en art. Votre thèse portait d'ailleurs sur la période romantique. Vous
et la revue L'Artiste.
Et la revue L'Artiste. Et la revue L'Artiste, exactement. On salue Théophile Gauthier, hein, par-delà les années et les sphères, hein, peut-être, Céleste, peut-être nous écoute-t-il. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris 4, hein, Sorbonne, et auteur de plusieurs romans où l'art joue toujours un rôle extrêmement décisif. Dans ce nouveau livre, Les oiseaux de Christophe Colomb, qui paraît chez Gallimard, vous interrogez la problématique du musée en littérature, puisque cette histoire qui est racontée comme un conte, c'est la première fois d'ailleurs que vous prenez ce ton du conte.
Oui, un conte ou une fable ou une longue nouvelle dont l'héroïne est une jeune fille de 14 ans et c'est elle qu'on suit dans ce musée qui est le musée du Quai Branly.
Voilà, le musée du Quai Branly qui va fêter ses 10 ans et que vous sublimez dans ce texte où vous le présentez sous les traits d'un navire, d'une nef qui va permettre à cette petite fille qui vient d'Espagne de connaître l'art, la beauté, aussi de fortifier son imaginaire. Elle est à Paris pour 3 mois chez son oncle et sa tante et pour les besoins d'un exposé, comme on en a eu tous à faire. Elle va découvrir le musée, ses trésors, et tomber sur un parchemin bien mystérieux, mis au jour par 2 employés de ce musée singulier, et qui réécrit ce parchemin sans dévoiler.
Faut pas tout raconter.
Non, non.
Oui.
Mais non seulement l'histoire de l'art, mais l'histoire des grandes découvertes, puisqu'il est question des Taïnos, le premier peuple découvert par Christophe Colomb, et le premier peuple à mourir de cette découverte.
Oui. En 1492, Colomb débarque et il rencontre ce peuple qui avait une culture, qui produisait des objets d'art, des œuvres qu'on peut voir dans ce musée.
Alors, objets d'art déjà considérés comme objets d'art ou des objets plutôt
des objets rituels, mais qui très vite ont été conservés. Et il y a aujourd'hui au Louvre, au pavillon des sessions et au musée du Quai Branly pour l'exposition qui s'ouvre en ce moment, l'exposition des 10 ans, un siège,
voilà,
l'exposition consacrée à Jacques Chirac et à sa vision et son goût artistique. Il y a ce siège qui vient de la collection David Weil, qui est un duo, comme on l'appelle, sculpté par les Taïnos et dont on a dit qu'il était le fauteuil de Christophe Colomb.
Voilà, et évidemment, ça, c'est très romanesque. Alors, on est dans le conte, on est aussi dans l'intimité de ce musée, de ses collections, entre les masques d'or, les pirogues, les totems, les esprits protecteurs du bassin du Congo, les tambours du Myanmar et les poteaux Mbitoro. Le musée, c'est le lieu romanesque par excellence, Adrien Goetz?
Pour moi, oui. C'est un musée comme celui du Quai Branly est un musée plein d'histoire. Dès qu'on est devant les couronnes d'or de l'île de Nias, devant ces poteaux sculptés que vous décriviez, devant la statue du plateau de Bandiagara qui accueille les visiteurs, on a envie de savoir ce que c'était, pourquoi c'est arrivé jusqu'à nous. Et c'est aussi un élément très romanesque, hein, comment l'œuvre, à travers les collections et à travers les voyages, souvent ce sont des œuvres rapportées par des navigateurs, est arrivée là et ce qui fait qu'on a le pouvoir de la regarder aujourd'hui. Ça me fait rêver, ça m'a donné envie d'écrire cette aventure.
Alors vous avez tous les deux, c'est pour ça aussi que je vous ai réunis, une formation en art. Est-ce que le choix du récit littéraire, du roman pour l'un ou du récit, vous allez nous dire, hein, d'ailleurs Nassim Aboudrar, comment vous le caractériser, hein, ce texte. Est-ce que ce choix, en tout cas de la littérature, allait de soi pour vous, pour transmettre ce qui relève peut-être d'une vocation, transmettre la beauté de l'œuvre d'art ou la nature du regard que l'on porte sur l'art en général, Nassim Aboudrar?
En fait, de formation en art, j'ai une formation de regardeur d'œuvres d'art. J'ai pas une formation d'artiste, j'ai une formation classique. Donc, pour transmettre des sentiments ou des idées, je ne peux, moi, passer que par l'écriture. J'ai pas de moyens plastiques à ma disposition.
Mais ça pourrait être un essai, ça pourrait être... Or, alors, vous choisissez quand même la voie du romanesque, même si tout est vrai.
Oui, alors j'ai choisi là une voie qui est proche d'une voie romanesque. En fait, j'insiste quand même sur le fait que c'est un essai auquel j'ai voulu donner une forme de lisibilité romanesque. En ce sens, pense qu'effectivement tout est vrai et que j'essaye de faire aussi passer quelques petites idées théoriques au sujet de ce que c'est qu'un nu, de ce que c'est qu'une place dans un musée, de la puissance d'un tableau qui fait que l'on peut vouloir se battre contre d'une certaine façon et aller jusqu'à le détruire, qui est une puissance chamanique d'une certaine façon. On n'est pas si loin là des objets du musée du Quai Branly.
C'est vrai qu'il y a une
Adrien Goetz.
Un pouvoir de l'œuvre d'art qui est immédiat et qui se passe très bien, très facilement de tous nos cours d'histoire de l'art et de tous nos cours d'esthétique. Et moi, quand j'ai envie d'écrire ce genre de romans, de récits, j'essaie d'oublier que j'enseigne l'histoire de l'art. J'essaie de me laisser aller au plaisir de raconter une histoire et pas forcément d'essayer d'apprendre quelque chose. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses qui passent aussi dans ce que j'écris. J'essaie de garder ma bibliothèque derrière moi, mais d'oublier un peu tout ça pour laisser les personnages agir.
Nassim Abdra.
Tandis que c'est la différence, je pense, une des différences entre nos deux livres, c'est que moi, je n'ai pas voulu, dans ce livre-là, oublier que j'enseigne l'histoire de l'art. J'ai au contraire fait des recherches qui sont vraiment j'ai même été aux archives de la National Gallery, j'ai lu à peu près tout ce que je pouvais trouver sur Velázquez. Enfin, c'est un bouquin de recherche. Il n'y a pas de notes de bas de page, je les ai envoyées à la fin du livre. Mais j'ai essayé, je répète, de donner vraiment l'écriture est effectivement une écriture romanesque, mais le fond est autant que possible celui d'un essai d'histoire de l'art.
Mais il y a des moments romanesques dans votre livre quand même, quand elle va acheter pas la machette, mais la petite hache.
Le hachoir.
Elle choisit son hachoir pour attaquer le tableau. Là, il y a des dialogues avec le marchand, et puis c'est assez drôle. Il y a la chute de la page, je voudrais une hache. Ça, c'est terrible. C'est un vrai moment romanesque votre livre.
Merci de le dire. J'espère que ça l'est. En même temps, c'est dans son autobiographie. Et l'adresse du magasin de hache est l'adresse exacte, ou presque exacte. C'est la vraie rue, c'est le vrai magasin.
Vous avez pratiquement retrouvé l'arme du crime. Voilà.
J'ai essayé de faire que tout soit vrai. Je vous dis, même le nom du chat est vrai dans le livre. Tous les personnages.
Rappelez-nous-le quand même.
Il s'appelle Samuel.
Voilà, le chat Samuel. Voilà.
Tous les personnages ont vraiment existé. Et en particulier, tous les noms sont des noms réellement portés par des personnes
réelles. Oui, mais c'est vrai que ce que disait Adrien, et c'est valable aussi pour les oiseaux de Christophe Colomb, où les objets existent. Ce fameux trône ou siège que vous appelez Douo, qu'on appelle Douo, existe, mais c'est vrai qu'il s'agissait pour vous, Adrien, d'oublier de se mettre au niveau d'une petite fille et d'oublier justement les connaissances.
Une jeune fille, oui.
Voilà, elle a 14 ans.
Et elle n'aimerait pas qu'on l'appelle petite fille. Mais oui, il y a des objets qui racontent vraiment des histoires qui peuvent fasciner aussi bien des enfants de 10 ans qui ont l'âge du musée que des étudiants. D'ailleurs, c'est un musée rempli d'enfants et d'étudiants, le Quai Branly. C'est très particulier de le constater. Il y a un autre fauteuil qui est formidable. Il y a le trône du roi Gezo du Ghana, qui a des motifs portugais. Et ça, c'est très inexplicable. Et quand on lit le cartel qui accompagne l'œuvre dans le musée, on comprend que ce sont des esclaves qui sont revenus, libérés, affranchis dans leur terre d'origine, qui, au Brésil, ont été en contact avec des motifs portugais traditionnels que la cour du Portugal avait apportés lors de son exil au XIXe siècle. Donc on a là une sorte d'échange triangulaire. Une mondialisation des motifs ornementaux. Et ça, on peut difficilement l'expliquer, mais on peut le voir immédiatement devant cet objet derrière sa vitrine.
Alors, ce qui fait vraiment l'intérêt, outre le plaisir qu'on a à lire vos livres, et puis on apprend aussi énormément de choses dans l'un comme l'autre des livres, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que souvent, on sépare les arts, c'est-à-dire il y a la littérature d'un côté, et puis il y a le monde des arts, ce qui n'était pas le cas au XIXe siècle, et même par le passé, et ce qui n'était surtout pas le cas dans l'Antiquité, puisque si on se souvient d'Horace et de certains arts poétiques, le fameux Ut pictura poesis d'Horace, qui comparait la poésie à la peinture, qui rapportait les arts du langage à ceux de l'image, ou cette phrase que j'ai retrouvée là chez Plutarque, la poésie est une peinture parlante, la peinture une poésie muette. Ce qui fait le sel de vos livres, c'est que à nouveau la conjonction est retrouvée entre la littérature et l'art. Est-ce que vous pensez-vous qu'on puisse établir de telles correspondances? À savoir que la peinture pourrait peut-être donner, certes, matière à penser, mais que la littérature pourrait offrir matière à contempler l'art.
Moi, il y a pour moi un texte fondateur qui, depuis toujours, me fascine, c'est évidemment le chef-d'œuvre inconnu de Balzac, parce qu'il nous montre, il nous donne à voir un tableau qui non seulement n'existe pas, ce chef-d'œuvre que Fraenhofer peint avec désespoir et rage, mais qui n'a rien à faire avec l'époque de Balzac, puisque c'est une œuvre abstraite, c'est la première description d'une œuvre qui ne représente rien à une époque où la peinture n'en est pas encore là. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui m'a beaucoup fait rêver.
C'est-à-dire que l'écrivain invente finalement l'art qui va advenir ensuite.
Et le chef-d'œuvre inconnu de Balzac fait pleurer Cézanne, se retrouve dans tous les ateliers d'artistes du XXe siècle, et il y a là une sorte de préscience du romancier qui est vraiment fascinante.
Préscience et même motivation, est-ce que vous pensez que le romancier finalement a eu une influence sur l'histoire de l'art et sur la création de l'abstraction, par
exemple? Ça, je sais pas, mais je crois que les artistes lisent les critiques. Quand Manet lit le texte que Zola lui consacre, il a envie peut-être de se conformer à ce que Zola a compris de ses œuvres.
Oui, puisqu'on est au chapitre de nos bibliothèques idéales, moi, il y a un texte qui me fascine depuis très longtemps dans cet ordre d'idées, c'est la Galerie de tableaux de Philostrate. C'est un texte du IIe siècle où le réteur décrit un par un des fresques et des tableaux dans ce qui semble être un palais, une villa probablement sur mer, enfin un endroit qui doit être très très beau, qui n'a certainement jamais existé, mais les descriptions, en revanche, ont servi à des peintres classiques à partir du XVIe siècle. Le texte, par exemple, est traduit en français à la fin du XVIe siècle. Et à partir de là, c'est une source pratiquement inépuisable de représentations. Donc les artistes se sont vraiment calés sur un imaginaire d'écrivain qui était lui-même fondé sur une expérience du regard sur la peinture.
D'ailleurs, il y a des grands peintres, notamment le grand peintre dans l'Antiquité, dont on ne connaît les œuvres que par leurs traces,
oui,
que par ces traces.
Quand on lit Pline l'Ancien au livre 35 de l'Histoire naturelle, il nous fait des descriptions d'œuvres d'Apelles, de Zeuxis, de ces grands peintres de la Grèce dont on n'a plus rien. Et ensuite, c'est ce que disait Nassim à l'instant, Botticelli peint la calomnie d'Apelles après avoir lu le texte de Pline et fabrique le tableau à partir de la description d'une œuvre qui était un chef-d'œuvre mais qu'on ne verra jamais.
Je voudrais qu'on parle, avant de plonger dans chacun de vos textes, d'une figure littéraire, c'est l'ekphrasis, description de l'œuvre d'art. Vous utilisez l'un et l'autre cette figure rhétorique, alors de façon plus partielle chez vous, Adrien Goetz, c'est en quelques lignes, mais c'est vrai, on le verra tout à l'heure quand vous lirez un extrait, Nassim Aboudrar, donner à voir une peinture, une œuvre d'art par les mots. Certes, vous reproduisez le tableau sur la couverture et à l'orée de votre livre, mais c'est avant tout par les mots et par cette ekphrasis que l'œuvre se laisse voir.
Bon, en bon admirateur de Philostrate, j'ai voulu moi aussi me mesurer à cet exercice-là, qui est vraiment un exercice d'écriture. Et c'est très intéressant, c'est une espèce de gageure. Alors, il y a plusieurs choses. J'ai essayé dans le livre de diffuser cette description. Je la donne pas d'un seul coup, je fais différents degrés, si je puis dire ainsi, de description. Je pense aussi que la description est une manière de guider l'œil, et que quand on nomme quelque chose, ça me paraît vrai aussi en musique, je pense que c'est quelque chose que les musicologues savent bien, quand on arrive à nommer ce que l'on voit, on le voit mieux, ou on le voit différemment. Et c'est une des choses qui m'intéressait en particulier dans ce tableau, la Vénus au miroir. On a beaucoup parlé de la femme, qui est relativement pas très difficile à écrire, mais assez peu des tissus dont elle est entourée. La femme est nue, mais elle est entourée de différentes qualités de tissus, et par exemple, j'ai essayé de nommer, de décrire au plus près, effectivement, le tact de ces tissus, leur aspect, leur brillance, leur matité, leur froissement, etc. Et là, c'est en le disant que je le vois le mieux, et j'espère que je le fais voir le mieux. Il y a un moment où le regard seul ne suffit pas, même si c'est évidemment l'expérience première de la peinture. Donc en ce sens, je pense qu'il y a une forme d'utilité aussi de l'ekphrasis.
Adrien Goetz.
C'est le moment où la description remplace l'œuvre, et ça c'est depuis le bouclier d'Achille chez Homère.
Ah oui. Voilà, donc parlons-en un petit mot quand même, parce que c'est vrai.
Bah, c'est l'œuvre qui a fasciné tous les artistes, parce que tous ont eu envie de le montrer, de le peindre, de le forger. Le bouclier d'Achille, c'est un récit dans le récit aussi chez Homère. C'est-à-dire que c'est l'occasion de nous montrer beaucoup plus qu'une arme, une œuvre qui est vue comme très belle.
Impossible d'ailleurs,
impossible.
Enfin, tellement raffinée.
La page entière de description était...
Nassim.
Ah oui, non, j'abonde dans ce sens, mais c'est pas seulement une œuvre, c'est une mise en abîme du monde.
C'est ça, c'est un récit dans le récit. Alors ce qui manque dans votre, vous le dites, et c'est pas un manque, c'est quelque chose qu'on est allé chercher immédiatement sur Internet, c'est l'image du tableau lacéré. Moi quand j'ai lu votre livre, je me suis précipité, et vous dites qu'on vous a pas laissé le reproduire, mais en même temps, peut-être tant mieux.
Alors allons-y, répondez dès maintenant, comme ça on sera, c'est vrai, pourquoi n'avez-vous pas osé ou voulu représenter le tableau lacéré alors qu'on trouve l'image sur Internet?
Sur Google, on tape, on l'a tout de suite.
Alors,
oui.
J'ai tout à fait osé et voulu présenter le tableau lacéré dont j'avais vu le cliché aux archives de la National Gallery et par ailleurs, évidemment, sur Internet. C'est tout simplement que la National Gallery a refusé les droits du cliché. Et je dois dire que cette affaire m'a ravi. Sur le coup, j'étais un peu agacé quand l'éditrice m'a dit qu'on n'aurait pas le cliché. Puis en fait, ça m'a ravi. D'abord, ça m'a permis de montrer un tableau de Fontana, une lacération.
Monsieur Fontana, exactement.
des lacérations de Fontana, ce qui était plutôt amusant. Et puis surtout, il y a deux points qui me paraissent assez intéressants. D'abord, à l'exposition Velázquez de l'année dernière, dans les cartels comme dans le catalogue, le fait que ce tableau ait été détruit par une suffragette n'apparaît plus. C'est-à-dire qu'il y a une véritable omerta de la part du musée. Alors, évidemment, ça rend les choses extrêmement politiques parce qu'on est dans une période, hélas, où les destructions d'œuvres d'art ont pris des proportions effroyables. On en entend tous les jours. Et là, je pense qu'il y a une véritable politique à la fois naïve et noble du musée qui ne veut pas que l'on parle de ça. Qui, alors, peut-être pour pas donner de mauvaises idées ou des idées odieuses à d'éventuels visiteurs malveillants, peut-être par une forme de déontologie, je ne sais pas exactement parce qu'ils s'en sont peu expliqués, mais c'est récent.
En tout cas, vous vous en félicitez. Adrien Goetz, vous vouliez dire quelque chose?
Non, je veux dire que dans votre livre, vous entrez aussi d'une certaine manière dans la logique de la suffragette armée qui va attaquer le tableau. Et d'une certaine façon, ces idées sont exprimées dans ce livre. On peut y adhérer. Le fait que ce soit romancé fait que votre point de vue là-dessus n'apparaît pas forcément clairement au lecteur. Il y a un moment où on se dit, mais alors, il est en train de justifier ce qu'elle a fait.
L'accusation est lancée.
Mais oui,
On en parle peut-être après avoir écouté votre choix musical, parce qu'on va vraiment plonger dans Qui veut la peau de Vénus. Vous avez choisi The March of the Woman d'Ethel Smith, interprété par l'orchestre Plymouth Music Series sous la direction de Philippe Brunel. The March of the Women d'Ethel Smith, interprété par l'orchestre Plymouth Music Series sous la direction de Philippe Brunel. C'est le choix de Nassim Aboudrar. Il publie chez Flammarion « Qui veut la peau de Vénus ?» Le destin scandaleux d'un chef-d'œuvre de Velázquez. Pourquoi ce choix musical? C'est le féminisme des suffragettes qui sont à l'œuvre dans ce livre.
Alors ça m'intéressait parce que c'est bien sûr une forme d'hommage aux suffragettes, et puis j'évoque la figure assez haute en couleur d'Ethel Smith qui a été probablement une compositrice vraiment très très connue, très très importante, qui a une véritable carrière et qui avait dédié sa vie intime et sa vie politique aux femmes. Donc c'est un personnage intéressant. Ce qui m'intéresse aussi dans la danse, c'est ça dit quelque chose, je pense, aussi du mouvement suffragette, c'est le caractère très peu novateur de cette musique. On n'est pas très très loin, après tout, de chants anglicans. Quand on pense que c'est contemporain du Sacre du Printemps, à peu près, ou des premières œuvres de Bartok, ou du Trio de Vienne, on entend bien qu'elle ne cherche pas du tout ça. Elle n'est pas du tout dans cette modernité-là. Et ça me paraît refléter quelque chose aussi du mouvement des suffragettes, qui n'était pas forcément un mouvement progressiste. Ce qu'elle voulait, et c'est un progrès majeur, ce qu'elle voulait, c'était le vote des femmes, point barre. C'était pas pour autant des femmes qui voulaient, améliorer la société, aller dans le sens d'une nouvelle femme, d'une modernité esthétique, où elles étaient, c'était pas du tout leur objet.
Mais détruire les femmes nues dans les musées, quand on entend cette musique, on les imagine galvanisées, entrant à la National Gallery, la machette à la main.
Il revient, Adrien Goetz.
Mais oui.
Alors, il va falloir répondre, juste quand même un mot hein, pour les auditeurs qui nous rejoignent peut-être maintenant. Qui veut la peau de Vénus, c'est donc un récit qui nous guide dans un moment bien particulier de la vie d'un tableau, donc la Vénus au miroir de Velázquez, donc histoire vraie, hein, qui le 9 mars 1914 à la National Gallery est frappé par plusieurs coups de hachoir par cette suffragette Mary Richardson qui militait, vous l'avez dit, pour le droit de vote des femmes. Et vous êtes, Nassim Aboudrar, professeur d'esthétique et vous êtes écrivain. Et ces deux qualités vous permettent de raconter à la fois comme un savant, mais avec le plaisir aussi du romancier, cette histoire qui est une histoire artistique, qui est une histoire politique, qui est une histoire sociale, celle d'un tableau, celle de tous les hommes qui ont eu un rapport avec ce tableau, restaurateur, conservateur en chef, évidemment le peintre, et puis ces femmes, donc ces suffragettes, Mary et ses compagnons de lutte. C'est aussi un livre qui interroge la manière dont chacun, dans une société donnée à la fois au XVIIe siècle, dans une société aristocratique, hein, espagnole en l'occurrence, et puis dans la société britannique du début du XXe siècle, la façon dont chacun regarde une œuvre d'art et agit sur une œuvre d'art. Alors c'est vrai qu'Adrien Goetz, vous posez la question. L'ambiguïté, parce que vous utilisez aussi les armes du roman, c'est qu'on se met à la place de Mary Richardson et que finalement, pour un peu, on pourrait, devant l'effet de sidération qu'elle a devant ce tableau...
Dans un essai, on n'aurait pas cette ambiguïté.
Exactement, on pourrait la, non pas la comprendre, mais en tout cas, on se met à sa place, quoi. Est-ce que c'est pas un petit peu moralement répréhensible pour quelqu'un qui est professeur d'esthétique? Voilà.
Alors, dans un essai, on n'aurait pas cette ambiguïté. Vous avez parfaitement raison. Tellement qu'il existe un essai qui n'est pas ambigu sur le fait que pour l'essayiste, Gell, en l'occurrence, un anthropologue, justement, un anthropologue anglais, Alfred Gell, le geste de Mary Richardson est positif. Alors, lui défend carrément...
Ce que je craignais.
Il n'y a pas d'ambiguïté.
Pourquoi?
Il le positive en anthropologue du chamanisme, en plus, et en expliquant que par ce geste, elle a fait une nouvelle œuvre, qui est la Vénus Rugby lacérée, et que cette œuvre a une nouvelle puissance, et d'une certaine façon, une puissance plus grande, ou qu'elle a restitué une puissance politique, par exemple, une puissance quasi mystique, à une œuvre qui aurait, sans cela, été à peine regardée, banalisée, etc. Alors, c'est pas ce que je dis, certainement pas, mais moi ce que j'ai essayé de faire c'est simplement de, non pas de justifier, mais de comprendre. Et justifier et comprendre c'est quand même pas tout à fait la même chose. J'ai essayé de comprendre.
C'est un débat tellement contemporain en l'occurrence en plus.
Je crois qu'on gagne à essayer de comprendre quelles sont les motivations, même si les motivations actuelles du vandalisme actuel, je pense évidemment au vandalisme de Daesh et ce genre de gens, doit se comprendre avec de toutes autres catégories et c'est quelque chose de plus platement odieux.
Alors, Nassim Aboudrar, j'aimerais justement qu'on vous écoute lire un passage. On est avec Mary Richardson. Elle a donc décidé de vandaliser ce tableau. Son hachoir est tout près de sa main. Elle arrive dans le musée. Elle est face au tableau.
Elle s'arrêta sur le palier et se tint à l'entrée de la salle. Elle était là, à main gauche, appendue sur le mur nord. Depuis l'embrasure de la porte, Marie ne la voyait qu'à partir des épaules. Le val déclinant de sa hanche et la longue courbe de son flanc, le galbe de sa cuisse, le fuseau de son mollet et son pied tubulé formaient, à cette distance, un paysage de collines pâles, très douces, entre la mer grise aux moirures bleutées de la soie où elle reposait et le drap blanc neigeux, froissé de sa couche. Devant un rideau rouge, un amouré ailé nu lui tendait un miroir au cadre d'ébène dont le teint brouillé reflétait son visage, tache rosée, floue, cernée de sombre. La Vénus Rugby, Velázquez, Vénus à son miroir. Lui faisait face au milieu de la salle une banquette ovale capitonnée de cuir grenat. Par-dessus la ligne de son dossier se profilaient deux larges paires d'épaules, vêtues de tissu noir et surmontées chacune du même chapeau melon trop étroit qu'affectionnaient les détectives britanniques. Immobile, il fixait le tableau. Marie tremblait tant qu'elle sentit la lame riper contre son poignet et l'arrêta juste à temps avant qu'elle ne l'entaille. Elle sortit de la salle et se dirigea sur sa gauche, fuyant le tableau et les policiers qui semblaient, hasard absurde, le garder.
Merci Nassim Aboudrar pour cet extrait donc de « Qui veut la peau de Vénus ?» C'est le récit que vous publiez chez Flammarion. On voit bien là naître, on est avec donc Mary Richardson, le sentiment de sidération qui la frappe au moment où elle est devant ce Velázquez. Alors évidemment, la question qu'on se pose et que vous résolvez partiellement, hein, en tout cas vous lancez des hypothèses, c'est que ce tableau, en fait, elle l'a dit hein, d'ailleurs, la justice est un élément de la beauté plus encore que les couleurs ou les dessins sur une toile. Et elle ajoute, Mary Richardson, « J'ai entrepris de détruire la peinture de la plus belle des femmes de l'histoire mythologique pour protester contre la destruction par le gouvernement de Mrs. Pankhurst, qui était l'une de ses collègues de lutte, qui est le plus beau caractère de l'histoire moderne. » En quoi était-il important pour vous de souligner finalement cette mise sur le même plan qu'elle fait entre l'œuvre d'art et l'œuvre humaine qui est une belle personne selon elle ?
C'est simplement là que dans l'enquête que je mène, je cite ses propres propos. Alors elle en a tenu de divers à diverses époques. Elle a tenu celui-là, donc la comparaison entre la plus belle des femmes au moral, qui était sa chef, la fondatrice du mouvement suffragette, Emily Pankhurst, et la plus belle des femmes au physique, qui était Vénus. Elle a aussi plus tard dit qu'elle n'aimait pas le regard concupiscent que les hommes jetaient sur ce tableau. Et elle a enfin raconté qu'elle trouvait que le tableau coûtait trop cher et qu'elle avait voulu... frapper l'Angleterre au portefeuille, comme on dit.
Œil noir d'Adrien Goetz.
Oui, parce que finalement, elle meurt en 61. Moi, j'ai tout appris dans votre livre. Et on se rend compte que pendant la Seconde Guerre, elle se rapproche d'Oswald Mosley et des fascistes anglais, britanniques.
Ça va bien dans ce que je disais.
Alors, je fais son procès à cette Mary Richardson.
Vous avez bien raison. D'autant qu'il n'a presque pas été fait. Elle n'a pratiquement pas fait.
On commence, on instruit aujourd'hui voilà, cette émission.
Voilà. Regardons un peu les choses.
C'est pas le procès de Christophe Colomb ensuite.
C'est pas quelqu'un de sympathique. Et de fait, elle a fait ensuite une courte expérience fasciste. Et c'est pour ça que j'avais souhaité aussi faire entendre cette marche des femmes tout à l'heure. C'est que ce mouvement... politiquement et très difficile à repérer. Ensuite, ces suffragettes, une fois qu'elles ont obtenu le droit de vote en 18, elles se sont éparpillées dans la pluralité des possibilités politiques.
Poulets et des volailles et elle n'a pas la force de les tuer. Ça, c'est drôle. Le respect de l'animal fait que là, elle garde sa machette de côté. Elle n'attaque pas la volaille.
Elle prétend avoir horreur du sang. Enfin, c'est...
Vous ne la rendez pas sympathique du tout, Nassim Aboudrar, mais vous la rendez extrêmement intéressante dans le sens où vous essayez aussi d'expliquer hein, ou de comprendre ses motivations. Notamment, elle a fait ce personnage extrêmement romanesque, un séjour en prison. Et devant, et là je vous cite, devant le tableau, elle se souvient de son propre corps et elle sent... dans ce tableau représentant Vénus, la plus belle des femmes, un défi à son propre corps, je vous cite. Les guenilles humiliantes qu'elle revêtait chaque jour à Holloway, qui récusaient son corps, l'estampillaient aux armes de la prison, la baignoire moisie de sa toilette hebdomadaire, c'est quand même en face la toilette de Vénus, enfin Vénus dans son miroir, et le savon pour chien qui rancissait sa peau l'avait conditionné à réagir de tout son corps au corps libre de Vénus sur sa couche de soie face au miroir de Cupidon. Comme une dame d'Espagne dans son carcan, son corps était devenu pour Mary une obsession et un oubli, un résidu douloureux qui résiste à sa dissolution programmée, voulue, redoutée. Vénus lui avait en un instant montré tout ce que peut un corps. Phrase étonnante, la chamanique totalement.
Oui, là, c'est une phrase chamanique au sens propre. Je crois qu'il y a un article qui s'appelle comme ça, un article d'anthropologie qui s'appelle ce que peut un corps.
C'était la première exposition du musée du Quai Branly qui s'intitulait Qu'est-ce qu'un corps ? Exactement. C'était très, très intéressant.
Mais sur ce passage où finalement c'est presque une lecture mystique que vous faites de ce tableau, une lecture mystique, lecture romanesque aussi. Elle attaque le tableau parce qu'il lui montre ce qu'est un corps, quoi.
Oui, alors ça, c'est... Merci d'avoir lu ce passage qui est probablement ce qu'il y a de plus personnel dans ce livre, c'est-à-dire ce qui serait ma propre hypothèse, explicative de ce geste, qui est en même temps une forme d'hommage à la beauté effectivement fascinante du tableau de Velázquez et du corps qui y est représenté, qui est un corps exceptionnel dans l'histoire de la peinture, parce que c'est un corps presque vivant et je dirais moderne, en ce sens que très peu stylisé, d'une femme avec des hanches très étroites et des fesses très, très galbées, qui est un corps très... Enfin, c'est pas du tout comme les autres nus allongés du Titien, par exemple, qui sont des corps quand même très stylisés.
Le cartel de l'exposition du Grand Palais disait avec beaucoup de malice, et nos amis les conservateurs qui les rédigent, le plus beau coup de l'histoire de la peinture.
Ce qui est peut-être vrai, c'est
coup de COU.
Voilà. Alors C-O-U. On pense aussi au voilà. COUP.
Et au coup de couteau, oui. Hein, de hachoir.
Au oui. coup de hachoir, mais ça, c'est
oui,
pas
Oui, parce bon. Que, est-ce que vous pourriez développer un peu cette idée, Nassim Aboudrar, puisque vous dites, vous expliquez hein, que les motivations de l'acte de Mary Richardson, et c'est pour ça qu'on est, toujours à la lisière du roman, doivent être recherchées dans les spécificités du tableau qui fut sa victime, hein, c'est ce que vous écrivez. En quoi ce tableau-là, finalement, on en a eu une explication là, avec voilà, il lui enseigne ce que c'est qu'un corps, mais là c'est le romancier qui prend le dessus, surtout. Mais en quoi ce tableau-là lui importait à Mary Richardson ?
Probablement la liberté de la femme qui s'y trouve représentée, je dirais.
Elle aurait dû aimer ça en tant que suffragette.
Oui, mais il est probable qu'elle craignait son propre désir. On n'ose pas toujours aimer ce que l'on aime, et je pense que si elle a fait ce geste, c'est certainement qu'elle était effectivement au plus profond d'elle-même fascinée et plus que ça enamourée par le tableau. Là, j'imagine qu'il y a dû y avoir quelque chose de très très fort qui s'est produit. Je suppose que l'on ne va pas jusqu'à abîmer un tableau n'importe comment et sans raison. Surtout là, hein, elle l'avait choisi. On sait qu'elle l'avait choisi. Des suffragettes à l'époque abîmaient toutes sortes de choses. Il y a des tableaux de valeur infiniment inférieure qui ont été abîmés un
John
peu au
Sargent,
hasard.
John Sargent hein, aussi a été un tableau de John Sargent.
Oui, il y a un portrait de Sargent. Il y a dans un autre musée qu'il y a des tableaux qui ont été abîmés à la peinture pratiquement et tout de suite réparés pratiquement au hasard. Là, c'est un geste parfaitement médité et on sait qu'elle avait choisi ce tableau. Donc, effectivement, c'était la première question. Je me suis demandé pourquoi ce tableau. Quant à ce que je raconte sur les vêtements puants, et puis un peu plus loin, je raconte même une véritable scène de torture, très exactement une scène de gavage médical de suffragettes qui faisait des grèves de la faim. Là encore, j'y insiste, c'est pas mon imagination. C'est très exact et dans ce passage, c'est une tentative quasiment de réécriture. On parlait tout à l'heure d'ekphrasis. Là, c'est un autre exercice qui en rhétorique classique s'appelle la paraphrase. Je me suis servi de textes existants qui décrivent ça, qui sont des autobiographies de suffragettes, qui décrivent ces vêtements, qui décrivent ce gavage, et je les ai réécrits. J'ai mis ma propre volonté d'écrire, mon propre style, mais c'est au plus près du document.
Mais est-ce qu'on ne touche pas quand même à l'essence de la littérature qui fait qu'on a toutes les données historiques du fait, de ce fait divers, hein, une suffragette qui attaque au hachoir un tableau de Velázquez. Ça, ce sont les faits. Mais pour la comprendre, finalement, il faut en passer par la littérature, donc par cette fascination. Et là, il faut que le romancier s'y mette pour offrir une plus-value de sens.
Là, oui. Là, je crois que la dimension littéraire était ce qui me permettait d'être au plus près de la connaissance sensible. Et en ce sens, c'est un exercice d'esthétique. C'est d'une connaissance qui soit sensible et qui soit pas forcément une connaissance complètement positiviste et complètement... Mais alors, inversement, je me suis posé en lisant le livre d'Adrien Goetz, et du coup, je vous pose la question au micro, la question de la fictionnalité et ou de la vérité de votre récit. Parce qu'il est très crédible. Et donc, quelle est la part d'invention ?
Il y a un rebondissement final que je ne vais pas raconter, qui est de l'invention pure, mais tout le reste se fonde sur des visites que je fais constamment dans ce musée qui n'est pas très loin de chez moi et que j'aime beaucoup, où je me promène, et où on entre par les mots. Hein. Il ne faut pas oublier que quand on arrive au musée du Quai Branly, on est accueilli par une installation d'un artiste contemporain qui s'appelle Charles Sanderson et qui a fait un serpent de 15 000 mots sur le sol qui apparaît qui disparaissent et qui sont les termes de l'ethnologie, du voyage, les noms des peuples et des cultures qu'on va découvrir. Et donc pendant qu'on regarde ça au sol, on se lave un peu de notre imaginaire occidental et on aborde un monde nouveau à travers le langage. Et ça, c'est une très belle idée du musée du Quai Branly.
Mais c'est-à-dire que, Adrien Goetz, que le voyage finalement en musée ou le voyage dans l'art commence justement toujours par une rivière de mots, par la puissance, on parlait de chamanisme, de certains mots hein, que vous citez.
L'évocation des mots, oui, l'étrangeté.
Que vous citez, hein, Djambala, Pukala, Cantabrien... Caïma, Gourmanche, encaustique, voilà. Océan.
Oui,
voilà,
il y a même
les vrais mots.
Voilà.
Encaustique.
Encaustique, j'ai relevé tout ce que Charles Sanderson avait, ce qu'il avait intrigué, sans doute en regardant les cartels des musées, du musée et les explications qui sont fournies aux visiteurs.
Alors, on va y venir à ces oiseaux de Christophe Colomb. Je voulais poser une dernière question qui vous concerne, Adrien Goetz, pour arriver comme ça dans le musée. Nassim Aboudrar, vous mettez dans la bouche de l'un de vos personnages les propos suivants sur les musées. Nos musées, c'est un peu le luxe public. La beauté, l'inaccessible mis à la portée du plus grand nombre. Surtout depuis qu'il y a des jours gratuits. Alors cette définition-là, elle est inventée. Là, c'est de vous. Ou c'est ce personnage...
C'est de moi, je le mets dans la bouche de ce personnage. Il y avait effectivement des jours gratuits dès cette époque à la National Gallery. Je ne sais pas si c'était le cas au Louvre.
Le luxe public, l'idée de luxe qui est une belle idée.
On le trouve dans le roman. Regardez chez Zola la noce de Gervaise qui se rend au Louvre pour fêter le mariage de Gervaise. C'est à travers le Louvre que ce public qui n'a jamais vu d'art choisit de fêter ça dans les salles d'un musée.
Ça, je crois que c'est une notion vraiment à l'origine du muséum, l'idée du luxe public, l'idée de mettre ce qui était la propriété des ci-devants, comme on dit en 1792, à la porte des citoyens, ça je pense que c'est vraiment quelque chose de nucléaire dans l'idée moderne de musée et de musée national. Il s'agit ici du musée national. Mmh. Alors, dans le cas de l'Angleterre, c'est assez compliqué parce qu'un grand nombre de collections sont encore des collections royales en main privée ou quasi privée. Mmh. Enfin, sont inaliénables, mais elles sont royales.
Et c'est ce luxe public que célèbre donc Adrien Goetz dans Les Oiseaux de Christophe Colomb. Donc promenade romanesque, initiatique au Quai Branly, ça paraît chez Gallimard. On en parle tout de suite avec vous Adrien Goetz, mais d'abord on écoute votre choix musical qui est un choix musical de circonstance puisque vous avez choisi le Taïno Calling Song de Luis Ramos qui est un chef spirituel Taïno.
Je voulais qu'on entende les Taïno.
Taino Calling Song de Luis Ramos, qui est un chef spirituel Taino. C'est le choix musical d'Adrien Goetz. Il publie Les Oiseaux de Christophe Colomb. C'est chez Gallimard, promenade initiatique, artistique, romanesque, d'une petite fille encore.
C'est une jeune fille qui décide de faire le voyage à l'envers et de s'embarquer dans ce musée qui est l'inverse de la Santa Maria de Christophe Colomb, pour remonter les âges et remonter dans l'autre sens, découvrir que ce qu'on a appelé longtemps le fauteuil de Christophe Colomb, c'est avant tout un chef-d'œuvre de l'art taïno. Et que c'est ce peuple, vous vous souvenez, il y avait eu une exposition en 1994 au Petit Palais, c'était le moment où on avait commencé à comprendre que Jacques Chirac s'intéressait à ces arts lointains.
La révélation.
Voilà, les arts lointains.
D'une culture, enfin de
oui, qui s'intéressait à la culture. Oui, bien sûr. Et tous ces objets objets étaient sublimes, éclairés magnifiquement dans des vitrines, et on avait la présence réparatrice, en quelque sorte, d'un grand peuple conquis, découvert et massacré.
Y a-t-il dans ces oiseaux de Christophe Colomb, donc, qui racontent cette promenade au musée, cette découverte du musée par une jeune fille qui vient d'Espagne, y a-t-il chez vous une volonté aussi de faire œuvre de réparation morale en sublimant ce musée, ces collections d'art premier, en les faisant entrer dans le roman?
Non, parce que ce n'est pas du tout un roman à thèse. Je ne cherche pas à défendre une idée qui serait la réconciliation irénique du monde. Bon, il y a le dialogue des cultures qui est fondamental, surtout en ce moment. Bon, mais c'était pas ça mon idée. C'est simplement une expérience que chacun peut vivre quand, par exemple, vous allez dans cette... Il y a des boîtes au Quai Branly. Vous entrez dans des petits univers. Il y a un endroit que j'aime particulièrement qui s'appelle la chambre des écorces. Et ce sont des écorces d'eucalyptus qui ont été collectées en terre d'Arnhem, en Australie, par Karel Kupka, qui est explorateur et qui est aussi un artiste. Et on se sent bien dans cet endroit. Et c'est ce que j'ai voulu faire comprendre. C'est-à-dire que cette jeune fille qui vient d'Espagne se sent chez elle, dans un fragment d'Australie, transportée dans un musée à Paris. Et elle a envie de décorer sa propre chambre à l'imitation de la chambre des écorces.
C'est étonnant parce qu'il y a un très beau passage chez Charles Péguy, quand Charles Péguy arrive à Paris et qu'il est jeune normalien et qu'il se sent pas bien. Il va au Louvre et il y a ce passage où les statues l'appellent en lui faisant... Il se dit, voilà, au milieu de ses statues, de ses œuvres, je me sentais chez lui. Lui, le jeune provincial, exactement.
Oui, oui.
Le musée, Nassim Abodrar parlait de luxe public. C'est une notion aussi que vous avez cherché à faire transparaître dans ces oiseaux de Christophe
même
Colomb.
Quand on ne connaît pas les choses, on peut aller au musée du Quai Branly. Il y a un salon de lecture Jacques Kerchache au rez-de-chaussée. Vous avez tous les livres
donc
en libre accès.
Le grand connaisseur, grand marchand, de Jacques Chirac.
L'homme qui, en dialoguant avec Jacques Chirac, a été à l'origine de tout cela. Donc vous pouvez aller travailler, lire, prendre des notes avec votre ordinateur. Il n'y a pas besoin de remplir une fiche. On a un accès direct à toute la littérature du monde sur ce sujet.
Alors, donc on se promène dans ce musée un peu comme dans un train fantôme avec cette jeune fille. Alors, il y a cette jeune fille, il y a d'autres personnages. On voit aussi toute l'équipe, d'ailleurs, de ce musée au travail.
C'est ça aussi un musée. Ouais. J'ai dépeint un vieux photographe qui a tout vu, qui, dans certaines collections un peu frelatées, pas au Quai Branly, a connu le même objet avec la même sculpture africaine en bois ciré, parfaitement brillante et mise au goût des années 50. Puis ensuite, il la retrouve dans une autre collection, c'est la même, mais elle a été couverte d'une patine sacrificielle un peu bizarre, montrant qu'elle aurait été utilisée en Afrique lors de cérémonies. Donc, les photographes dans le domaine de ces arts dits premiers, de ces arts lointains, sont importants parce qu'ils ont une vraie culture de ces objets. Il y a beaucoup de collections privées, tout n'est pas dans les musées. Donc, je voulais montrer ça. Je voulais montrer une Canadienne qui, elle, s'intéresse à la musique, qui est ethnomusicologue.
Oui, il y a beaucoup d'instruments.
Voilà. Donc, il y a un côté train fantôme, vous l'avez dit, mais c'est pas seulement ça. C'est pas un lieu d'amusement, c'est un lieu où on est surpris sans cesse.
Alors, on va vous écouter lire, Adrien Goetz, un extrait de ces oiseaux de Christophe Colomb.
Le grand roi du plateau de Bandiagara, qui l'accueille le bras levé, a deux seins, en pointe. Les explications qui disent qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre de l'art africain ne lui suffisent pas. Elle hésite à demander à un jeune homme qui surveille et, un peu gêné, se contente de se laisser porter, comme les deux dames, vers la carte du plateau des collections. Elle se trouve devant une étrange carte géographique, où les continents seraient déformés et allongés. Elle s'oriente, regarde à deux fois, repère les Amériques et n'hésite pas. Elle suit un petit groupe qui s'engouffre à droite. Ce qu'elle voit en premier, ce sont de hauts poteaux sculptés qui se détachent en pleine lumière sur les couleurs de terre et le sol rouge vif. Elle lit « Mélanésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée ». Elle est déjà perdue. Mais les mots agissent sur elle comme une poésie. Les poteaux mbitoraux des Camoros symbolisent la présence des ancêtres. Elle s'attendait à des vitrines, comme dans tous les musées qu'elle connaissait, ces petits aquariums où les grandes personnes posent les objets précieux. Elle circulait entre des parois de verre, ne sachant plus si elle était à l'extérieur ou à l'intérieur, si elle était passée derrière et si elle ne faisait pas partie des œuvres les plus rares de ce musée. Un instant, elle a cru qu'elle entrait dans une grotte, une caverne avec des bijoux d'or. L'instant d'après, elle plongeait dans un corridor de lumière avec de hautes statues qui avaient l'air d'avoir été plantées là, en liberté. Au-dessus d'elle, dans l'ombre, elle croit les voir entre les découpes des arbres. Plus loin, à travers de grands losanges, c'est Paris et sa lumière du matin qui arrive assourdie.
Merci Adrien Goetz, donc extrait des oiseaux de Christophe Colomb qui paraît chez Gallimard. Chant lexical de l'égarement, on se perd dans les couloirs, du miroitement aussi, on se voit soi-même en œuvre d'art.
Voilà,
au milieu des œuvres d'art.
Ça c'est très important.
Et en même temps, ouais. Trésor, lumière, c'est une véritable initiation, c'est ça l'idée, c'est de faire un petit roman mystique, en fait, entièrement dédié à l'art.
Tous les peuples et toutes les époques à la fois, parce qu'il y a aussi des œuvres du XXe siècle, mais il y a aussi un tambour en bronze de Java du IVe siècle avant Jésus-Christ. Enfin, il y a des œuvres très anciennes et des œuvres qui sont aussi des œuvres d'aujourd'hui. Elle est éblouie par ces masques d'Alaska, ces masques de Kodiak, qui ont été rapportés par un explorateur extraordinaire qui portait le nom pittoresque d'Alphonse Pinard.
Comme le procureur de Madame Bovary et les fleurs du mal.
Exactement. Et il a légué au château-musée de Boulogne-sur-Mer une magnifique collection qu'il a collectée sur place. Il était dans son petit canoë et il ramait pendant des kilomètres et il a rapporté ces masques dont certains sont aujourd'hui au Quai Branly.
Vous parliez tout à l'heure de la rivière de mots. Est-ce qu'un musée, c'est d'abord ça pour le romancier? C'est-à-dire une rivière de mots où puiser des fictions?
Non, une rivière d'images d'abord. Et ça agit sur les romanciers depuis toujours. On a cité Balzac, on a cité Zola, on peut aussi citer évidemment les frères Goncourt, grands collectionneurs qui, avec Manet de Salomon, font le roman du modèle artistique. Manet de Salomon pose pour tous les artistes, et c'est à travers la vie de cette femme qu'ils abordent le monde des arts et aussi le monde du salon, des expositions officielles et des musées. Il y a une vraie tradition dans le roman, qui est reprise aussi au cinéma. Souvenez-vous de Vertigo de Hitchcock. Enfin, le musée est un lieu qui ouvre vers beaucoup de choses et un lieu très actuel.
Alors, Adrien Goetz, vous avez donc travaillé, votre doctorat d'histoire de l'art portait sur cette période romantique et sur ce journal dirigé par Théophile Gautier, donc un écrivain, l'artiste, la revue L'Artiste. Vous avez travaillé sur Ingres, vous avez commenté, préfacé le chef-d'œuvre inconnu de Balzac, dont vous nous parlez. Votre premier roman avait pour héros un artiste contemporain imaginaire, qui rappelait un peu Balthus. Votre deuxième roman racontait les aventures imaginaires d'un chef-d'œuvre perdu par Ingres en 1815.
Un nu, là aussi,
voilà.
Un nu féminin.
Le pendant de la grande odalisque.
La dormeuse de Naples.
Dans Intrigue à l'anglais, c'était une jeune conservatrice de patrimoine qui tentait de percer les mystères de la tapisserie de Bayeux, de maître manquant à la tapisserie de Bayeux. Intrigue à Giverny, on était chez Monet. Qu'est-ce qui vous passionne à ce point dans ces noces de l'art et de la littérature? Est-ce que vous n'avez pas écrit au fond des romans parce que c'était le meilleur genre pour raconter ce que les œuvres d'art peuvent avoir à nous dire comme chose vivante?
Non, ce que les œuvres d'art peuvent nous raconter, on l'apprend dans les livres d'histoire de l'art. J'essaie de l'enseigner à mes étudiants de manière sérieuse en ne romançant jamais. Et au contraire, une fois que j'ai terminé mon métier d'enseignant d'histoire de l'art, je referme les livres et j'essaie de rêver à d'autres choses que je ne peux pas dire ou que je ne peux pas exprimer autrement. Vous parliez, c'est peut-être des grands mots, mais vous parliez d'ekphrasis, c'est ça, c'est remplacé par des mots, des œuvres qu'on ne peut plus voir.
Mais pour quel effet?
Des choses qui sont de l'ordre de l'émotion, de l'amusement aussi, parce que moi je m'amuse à écrire ce genre de roman et j'espère que je peux faire partager ça à des lecteurs. Il y a un jeu avec le réel, un jeu avec les œuvres d'art, qui est le matériau romanesque qui m'intéresse depuis toujours.
Comment vous avez travaillé justement pour nous offrir cette promenade au milieu des trésors du Quai Branly?
Donc c'est un musée que je crois bien connaître, mais en même temps les connexions se renouvellent, donc on a toujours de nouvelles choses sous les yeux. Mais j'ai essayé d'oublier tout ça. Je voulais pas faire un roman écrit à coups de fiches et de notes prises au musée. C'était vraiment cette jeune fille qui entre et qui n'y connaît rien, qui était mon héroïne et que je voulais faire vivre.
Qui est une héroïne jeune, vous le dites plus tôt. D'ailleurs, vous la présentez comme un mélange d'Alice au Pays des Merveilles et de Zazie dans le métro. Vous faites donc référence à deux romans, Lewis Carroll et Raymond Queneau. Et vous adoptez le ton d'un conte, on l'a dit, avec une naïveté vraiment revendiquée. Je pensais à cette phrase d'Oscar Wilde, d'ailleurs, la jeunesse est un art. Il y a tout ça.
J'espère pouvoir être lu par des lecteurs de 12, 13, 14 ans, pour ce livre-là en tout cas.
On découvre l'usage des spatules vomitives.
Ah oui, le mot peut les amuser.
Vous vous servez d'un roman de Le Clésio, Voyage de l'autre côté, pour en faire le titre d'une exposition qui n'a jamais eu lieu. Alors on parlait de ce roman de Philostrate, cette galerie de tableaux qui n'a vraisemblablement pas existé, hein, dont nous parlait Nassim Aboudrar tout à l'heure. Vous, Adrien Goetz, vous inventez des expositions qui n'ont jamais existé,
oui,
qui portent le titre de livres qui ont existé.
Ce roman de Clésio que j'avais lu quand j'étais en première et qui m'avait enthousiasmé n'a rien à voir avec tout cela. Mais le Clésio, c'est aussi quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à toutes ces cultures, et l'exposition qu'il avait faite au Louvre le montrait tout à fait. Voyage de l'autre côté, ce sont tous ces mondes auxquels on peut accéder par des substances hallucinogènes. C'est la musique qu'on entendait, hein, qui évoque tout ce qui se passait une fois qu'on avait utilisé la spatule vomitive, ingurgité quelques substances qu'on ne précise pas, et qu'on s'installait dans ce duo, dans ce fauteuil en bois sculpté, pour accomplir les voyages qu'on ne peut pas faire autrement.
Le fauteuil, et vous installez le lecteur dans le fauteuil de Christophe Colomb. Il y a une part, je ne vais surtout pas dévoiler, parce qu'il y a un côté polar, hein, on découvre
Il y a une vraie intrigue.
Voilà,
oui, bien sûr,
intrigue, non pas à Giverny, mais intrigue au musée, un autre musée. Mais ce qui m'apparaît comme le thème vraiment central, c'est le thème du voyage. À la fois celui de Christophe Colomb vers l'Amérique, c'est celui de cette jeune fille d'Espagne vers Paris, c'est celui de la jeune fille au sein du musée du Quai Branly, c'est celui des Taïnos aussi. Il est question d'un autre voyage, un peu fantasmé. Je m'arrête là.
Oui.
Pourquoi et comment ce thème du voyage a-t-il émergé alors qu'il s'agissait avant tout d'un roman sur un musée ? L'art serait donc le meilleur des véhicules ?
Oui, et puis aussi pour notre époque, ça peut répondre à des questions qu'on se pose aujourd'hui. Quand vous avez au musée du Quai Branly, en face de vous, un palanquin de dromadaires qui provient des steppes de la Palmyrène, vous vous dites que vous êtes à Palmyre et que combats qu'on peut y mener aujourd'hui, on peut les rêver devant cet ornement qui revêt aujourd'hui une importance symbolique extraordinaire, qui n'était pas prévue quand il a été installé dans les collections du musée.
Ou chez Salambeau aussi.
Ah oui, alors ça, c'était ma grande lecture de collégien. Hein, je voulais être à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar.
Voilà. Dernière question qui s'adresse à vous deux. On a parlé d'ekphrasis tout à l'heure, c'est-à-dire cette figure qui consiste à raconter par les mots une image, hein, l'image, une œuvre d'art. Il y a un point commun entre vous deux, c'est que Nassim Aboudrar, si vous n'avez pas représenté le tableau vandalisé, vous avez représenté le tableau restauré. Hein. Il est sur la couverture, il est aussi dans la double page, la première double page. À la dernière double page, on retrouve en photo les protagonistes de cette histoire vraie et néanmoins très romanesque. Chez vous, Adrien Goetz, alors que vous venez de nous parler de rivière de mots, eh bien vous avez incrusté des images.
Oui, parce que je voulais que ça ressemble.
Et pourquoi donc ?
L'exposé de cette jeune fille qui doit travailler sur Christophe Colomb, je la montre découpant des images, les prenant et les assemblant. Et donc le livre est aussi, je pense, grâce à l'éditeur, un bel objet parce qu'on a mis des petites photos qui viennent du musée du Quai Branly.
Mais est-ce à dire, l'un comme l'autre, que la littérature ne suffit pas ? Il faudra toujours, dans un livre qui traite de questions d'art, y compris dans un roman ou dans un récit, montrer l'objet ?
Je pense que dans les deux cas, la photo, assez paradoxalement, a la fonction d'arrimer aussi le récit au réel. C'est-à-dire qu'on montre quelque chose qui existe vraiment. Et je voudrais dire que dans le livre d'Adrien Goetz, une chose qui me touche beaucoup, c'est qu'il y a... Alors, on parlait beaucoup d'ekphrasis, de description, il y en a très peu. Et ce qu'il y a à la place, ce sont des signifiants, ce sont des mots qui dignent des œuvres, dont on ne sait pas si ce sont des œuvres d'art ou pas. À mes yeux, elles le sont, en tous les cas.
C'est toujours la grande question.
C'est la grande question. Je suis pas sûr qu'elle soit si utile que ça. Mais ce sont surtout des mots extrêmement beaux à prononcer, totalement incompréhensibles, puisque ce sont des mots d'une langue étrangère et qui se suffisent d'une certaine façon à eux-mêmes. Et là, il y a une fonction poétique vraiment du signifiant quasiment pur.
Quand vous lisez Steppe de la Palmyrène, vous rêvez et vous avez en tête les bijoux perdus de l'antique Palmyre de Baudelaire.
Merci.
Merci
à tous les deux
pour
cette émission, ce temps des écrivains consacré au rapport qu'entretiennent la littérature et l'art, rapport tout à fait stimulé, explicité par vos deux livres dont je rappelle les références. Adrien Goetz, Les oiseaux de Christophe Colomb, c'est chez Gallimard. Et Bruno Nassim Aboudrar, Qui veut la peau de Vénus, sous-titré Le destin scandaleux d'un chef-d'œuvre de Velázquez, c'est La Vénus au miroir. À bientôt.
Merci.
Merci.
Merci. Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura, Charlotte Roux et Jean-Louis Deloncle à la technique, avec la complicité efficace et bienveillante de Lénaïgue Cariou. Vous pouvez nous suivre, vous le savez, commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter pendant 1000 jours sur franceculture.fr, 7h avec Adrien Goetz et Nassim Aboudrar sur l'art et la littérature. Merci encore. Je vous retrouve dès lundi pour un autre voyage, Le temps des libraires à 10h55.